Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous sommes aujourd'hui reçus par David dans son petit appartement de Camarès pour une conversation à bâton rompu autour du pastoralisme.
Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Eh bien voilà, je m'appelle David Perrault, je suis dans la région depuis longtemps, je suis arrivé comme ouvrier agricole, berger, puis j'ai eu une ferme pendant 10 ans, je tonds les brebis depuis 1978, on a monté une équipe en 1978, et je suis le survivant.
Ça fait 40 ans que tu, 43 ans que tu tonds les brebis.
Ça existe toujours. On est encore là. Bon, je suis le seul du début, mais on est encore là. Il y a des jeunes maintenant qui reprennent. Et
d'accord. Voilà. Tu es tondeur et tu es aussi berger, je crois.
Voilà.
D'accord. Et tu formes aussi des bergers ou ça t'arrive ?
Alors, j'interviens à la casotte, mais ça va s'arrêter parce que je suis en limite d'âge. J'interviens à la casotte à peu près une semaine dans l'année pour des travaux pratiques et pour un voyage sur le pastoralisme. En PACA, en fait, parce que c'est l'endroit où il y a du pastoralisme, où il y a des brebis dehors, à la période où, à l'école, ils peuvent faire leur déplacement. Quoi.
Ouais. Donc tu es arrivé ici il y a combien de temps, tu dis à peu près ?
Je suis arrivé en 74.
74.
Je suis dans les brebis depuis 74.
D'accord. Et tu étais déjà agriculteur quand tu es arrivé ici ?
Non. Ah. J'étais étudiant et à partir des travaux d'été que les étudiants font pour gagner un peu d'argent, ben j'ai préféré travailler dans les champs.
D'accord.
Et avec les bêtes, petit à petit, ce qui fait que j'ai abandonné la fac au bout de deux saisons.
Et c'est quoi qui t'a fait lâcher la fac ? Qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans ce métier-là ?
Ben, moi, je suis né à la campagne. J'ai toujours été attiré par l'agriculture, l'élevage et les cultures. Ouais. Mais ce n'était pas du tout mon objectif, je voulais être toubib. Et puis ça s'est avéré que voilà, en 71, ça a été mon premier job payé, 71, 72, et puis voilà. Mmh. Et ça m'a plu, quoi.
D'accord.
Et les brebis, j'avais été au contact des brebis tout petits, à Saint-Cernin-sur-Rance en 58.
Voulu.
Voilà. Donc il y a une attirance pour l'élevage, voilà.
Et donc ensuite, tu as pris une ferme ici ?
Ouais, j'ai pris une ferme pendant 10 ans.
C'était laquelle ?
C'était une petite ferme sur la commune de Combray qui s'appelle La Cavalerie. Voilà. Avec ma compagne, nous avons fait du fromage de chèvre qu'on a vendu pendant 10 ans. On a repris une ferme en friche qui était abandonnée depuis 5 ans. Mmh. On a remis ça à peu près en état. Je n'étais pas un agriculteur brillant parce que entre aller pas de clôture, donc garder les chèvres, faire le fromage, faire le tracteur, puis quand même, il y avait toujours la tonte que j'ai jamais arrêtée.
Ouais.
Ça faisait des nuits courtes. Donc j'étais pas.
Et ce fromage-là...
Il y a des meilleurs agriculteurs que moi sur un tracteur.
Et ces fromages-là, tu les vendais directement ou tu les revendais à quelqu'un d'autre ?
Tout. Donc avec 50 bêtes, on produisait 500 hectolitres de lait et on transformait tout.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire qu'à un moment, on a vendu du caillé à des artisans, donc là c'est à la mi-chemin du fromage, c'est-à-dire que tu fais le caillé puis tu le vends pour des gens qui vont le transformer en fromage.
Qui vont la finir.
Et puis petit à petit on s'est mis à vendre partout, donc on livrait à Rungis, on faisait des supermarchés, des marchés, on faisait de la vente directe, voilà, on se bougeait quoi.
Et pourquoi t'as arrêté la ferme ? Pourquoi t'es passé à berger ?
On va dire que la situation familiale a changé brutalement.
D'accord.
C'est fréquent chez les chevriers, comme un peu chez les... Comment on appelle ça ? Comme chez les maraîchers, c'est qu'on bosse de trop, en fait.
Ouais.
On bosse de trop et là, c'est rare... Enfin, c'est souvent que la famille tient pas. Ouais, on avait tendance à trop bosser, ouais.
Et donc, du coup, tu t'es dit, il faut que je change de boulot.
Eh ben ouais, ça s'est passé, ouais, j'ai changé de vie, quoi. Donc j'ai jamais quitté la tonte.
Mmh.
J'ai essayé deux fois, j'ai jamais réussi. Et j'ai, ouais, pendant quelques mois, j'ai fait d'autres boulots. Et puis et j'ai repris surtout une activité que j'avais avant de m'installer, en complément de la tonte, qui était de garder en estive. En fait, depuis 76, chaque année, je suis monté en montagne, quasiment. Pas toujours comme berger antique. Au début, j'allais voir des copains qui gardaient... parce que c'était des copains, puis petit à petit, ça m'a donné envie, puis je suis rentré dans le milieu des transhumants, et ma compagne à l'époque gardait aussi en montagne, donc on était, voilà. D'accord. Donc quand j'ai arrêté la ferme, j'ai repris les transhumances.
Oui, ça s'est fait tout seul.
Voilà.
Et il y a un parcours particulier pour devenir berger,
il y a plusieurs
des formations,
parcours.
Il y a un compagnonnage, il y a...
Ça marche. Alors il n'y a pas un compagnonnage parce que c'est quand même peut-être pas aussi complexe que les métiers, enfin bref. Ouais. Mais il y a plusieurs parcours. Moi j'ai commencé à bosser dans les fermes, donc je suis devenu ouvrier. J'ai jamais été stagiaire, par exemple. J'ai été ouvrier agricole tout de suite, puis berger tout de suite. Mais j'ai quand même fait une formation à la Cazotte pour avoir un BPA. À l'époque, ça s'appelait un BPA. Et c'était une formation qui avait des tas de qualités. Un peu dans la pensée unique agricole productiviste des années 70, mais avec quand même des qualités de rigueur et puis d'ouverture d'esprit chez les dirigeants. On a pu apprendre plein de trucs, quoi. D'accord. Donc je la critique pas globalement.
Mais pour être berger, il n'y a pas besoin d'avoir une certification particulière.
C'est mieux. Enfin, soit tu as de l'expérience, c'est-à-dire que tu as travaillé quand tu étais gamin et tu sais qu'une brebis, on regarde sa tête, on regarde ses fesses, et parce que il faut savoir où elle en est au niveau de sa production, de sa vie, si elle va faire l'agneau, si elle a fait l'agneau, si elle l'a perdu. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'il faut regarder vite. Mais sinon, une formation de mère de famille, c'est pas mal. Non, mais la patience, les soins. Et puis après, y a des écoles de bergers. Il y a des écoles de bergers. Alors ici, on a la Cazotte qui forme surtout des futurs exploitants et des techniciens. Et des bergers à proprement parler, oui et non, mais la profession de berger dans le sud d'Aveyron laitier, si tu veux, c'est surtout des bergers de bergerie. Parce qu'avant, on gardait. Maintenant, c'est les clôtures qui gardent. Donc il y a quand même un suivi du pâturage, savoir quand tu les mets, quand tu les laisses, dans quoi tu les mets. Tu fais pas n'importe quoi avec des brebis parce que tu peux les rendre malades brutalement, quoi. Voilà. C'est du travail plutôt de bergerie en tout cas, principalement pour le berger. Enfin, la vraie tradition pastorale maintenant en France, c'est les bergers de PACA qui gardent l'hiver en bas dans les vallées, qui gardent l'été en alpage et qui font des agnolages. Là, il y a une profession de berger et il y a une population de bergers. Voilà,
qui n'a pas forcément ailleurs. Ouais.
Avec tous les âges, et puis ça se rencontre sur les foires ou sur les marchés, etc. Il y a un petit milieu. Ici, c'est moins évident. Voilà. Ici, c'est plus des agriculteurs éleveurs que des bergers à proprement parler. Dans les Pyrénées aussi, t'as des bergers.
Mais quand on est berger, tu me fais réfléchir, il faut avoir de bonnes connaissances vétérinaires quand même.
C'est mieux.
Et ça, on te l'apprend ou t'apprends sur le tas ?
Ah bah, ça dépend de ta tournure. Je pense qu'on a des tempéraments qui font qu'on va vers certaines choses. Il y a des gens qui sont plus sur la gestion globale du troupeau, qui sont très intéressés sur la gestion globale du troupeau, du pâturage et de la production. Et c'est quand même le plus important du boulot. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt dans le soin. Tu vois, il y a le regard synthétique et le regard analytique. Moi, dès que j'ai commencé à être berger, c'est-à-dire salarié en Lozère, même j'étais berger avant en Montmorillon, je me suis passionné pour les maladies et les soins, les maladies des moutons, parce que le mouton, c'est fragile, c'est tout le temps malade, mais c'est probablement l'animal d'élevage qui réagit le mieux aux soins. C'est-à-dire que tu vois des brebis, elles peuvent rester, j'ai déjà vu ça, un mois par terre. Et puis, elles vont se relever. Une chèvre, elle ne va pas rester un mois par terre, un cheval non plus, une vache non plus.
Est-ce qu'on en vit bien d'être berger, d'être tondeur ?
Alors, ça, c'est vachement subjectif, en fait. Ouais. Parce que soit tu le prends bien, soit tu le prends mal. Objectivement, par rapport au monde du travail qu'on imagine, du monde du travail normal qu'on imagine, sachant que chaque boulot dans chaque métier est particulier, et que quand on rentre dans un corps de métier qu'on observe, il y a des trucs assez éprouvants partout. Hein, on, quand on voit une caissière, bon, voilà. Ben, n'empêche qu'une caissière, il y a...
voilà. Oui, mais, non, c'est pas facile comme métier.
Voilà, non, mais voilà, à peu près, il y a de l'intelligence et de la bêtise partout, et il y a moyen de souffrir partout. Moi, je suis dans la précarité, c'est un choix que j'ai fait. Voilà, si t'es pas dans la précarité, vivre berger de transhumance, si tu veux, c'est berger d'alpage, c'est un peu précaire. T'as 4 mois ou 4 mois et demi de saison, ça c'est sûr. Puis la saison d'après, c'est un an plus tard, tu retrouveras ce poste ou tu ne le retrouveras pas. Enfin, maintenant, il y a tellement de demandes que si t'as pas été trop mauvais et si t'as pas trop souffert, tu seras repris.
D'accord.
Parce que bon,
on cherche des bergers.
Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gars qui se présentent et qui descendent au bout de 15 jours ou 3 semaines ou une semaine.
Ouais, il faut avoir une mentalité un peu de solitaire pour être berger, non?
Ouais, faut encaisser la solitude, il faut encaisser la responsabilité. Parce que voilà, on va donner en moyenne, on va le faire pas trop grand, on va dire t'as 1200 brebis à peu près. Donc si t'es flippé complet, bah t'es là, t'as toujours peur qu'elle fasse un pet de travers, donc elle bouffe pas parce que tu leur laisses pas de place pour bouffer. Mais il y a le loup maintenant, donc il y a le loup, il y a les ours, enfin il y a de la prédation, il y a les touristes. Ça s'est développé incroyable, donc t'es rarement peinard avec ton troupeau. Ouais. Si, quand il fait mauvais. Quand t'aurais éventuellement besoin de quelqu'un.
Voilà. Là, il n'y a plus personne.
Là, il n'y a personne. Mais quand il fait beau, t'as les VTT, t'as le chien qui se met après. Tu vois, ça devient complexe, quoi. Il y a la solitude d'un côté, et il y a à réussir à rester un peu sociable de l'autre côté, quand tu vois les blaireaux qui te posent 20 fois par jour la même question et que t'as qu'une envie, c'est qu'ils soient pas là. Tu vois, c'est...
J'imagine, ça peut être agaçant.
Agaçant.
Assez rapidement.
Ouais. Qui passe devant ta cabane et qui te demande où sont les toilettes. mais c'est même pas ça. C'est que t'es mis à contribution.
Ouais, ouais.
Direct.
T'es guide touristique, Pascal.
Même pas. Et c'est pas toujours courtois. Ah. Patapim, patapam, nous nous sommes sortis d'eau. Nous m'a pas brigué spiat et m'ai perdu de soupi que la ham et la fête. Patapim patapam, nous c'est ce que m'arrive. Et chens nada pieta que va l'ou sous camin que camine à tout droit. Nous c'est pas l'ou sous nous, taillou qui l'encantado. Pas la bête et pas saillou que mi qui assis toute matine à l'algué. Nous c'est pas l'ou sous nous, taillou qui l'encantado. Non n'est pas ce qui est piensa et la nuit, Elodie et la nuit. Yo tous tins cabis abut, et disait nous, et disait Dieu. Yo jamais n'avait voulu, jamais prégat au mini Dieu. Aro que prégat l'ouïe, ten la glaise au cabachat, ta mendicar so que voy, allez dar au succustat. Palalai la la lero, palalai la la lero, palalai la 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 la
la la la la
la la la la la la la la la
la la
la la la la la
la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la. Et donc, est-ce que toi, tu as formé déjà des bergers? Est-ce que ça fait partie de tes attributions, si je puis dire?
Pas de mes attributions, mais c'est la vie. Moi, j'ai appris auprès d'autres, et puis j'ai essayé de transmettre, alors pour une raison intéressée, c'est que, enfin, si tu veux, depuis maintenant plusieurs années, je fais des demi-saisons en estive. Alors au début, ça a commencé avec une collègue qui avait pas beaucoup d'expérience, mais un peu. Moi, j'en avais guère. On s'est partagé la montagne deux mois. Les premières fois, comme il fallait, les gens n'avaient pas trop l'habitude, les éleveurs, d'avoir des bergers comme ça qui font que la moitié. On y allait se présenter ensemble, on passait les deux premiers jours ensemble à mettre en place, à repérer, etc., pour que tout soit OK pour celui qui est là, la première moitié. On faisait une visite à mi... Au début, on bouffait des ronds parce qu'on faisait des allers-retours. Mais pour que ce soit nickel, Et à la descente, on était les deux aussi, parce que quand il faut compter et qu'il peut y avoir des litiges, quand en face, tu as 6 éleveurs et que toi, tu es tout seul, tu es tout petit. Hein. Donc, si tu veux, au début, on a fait ça. Puis après, en prenant un peu de l'assurance et de l'habitude, on a pu maintenant, par exemple, avec Stéphane. Stéphane, maintenant, il fait la deuxième moitié de la montagne. Il fait, voilà, terminé. Ouais. Il descend le troupeau. Il sait que... Par contre, ça change la garde, ça.
Comment ça se passe alors quand il y a quelqu'un qui veut devenir berger, il arrive à choper ton numéro par un tel.
Alors il y a des réseaux maintenant.
Il y a des réseaux.
Il y a des sites sur internet, il y a des blogs, pardon. Ah. Moi je ne fais pas la différence entre les deux de toute façon. Oui. Il y a tout ce qu'il faut pour être en contact. Après, moi je conseille aux gens de faire ce que j'ai fait, c'est que soit tu fais l'école du merle, à mon avis qui est la référence en matière de garde d'estive.
Qui se trouve où ?
À Salon de Provence.
D'accord.
Où il y a une formation assez complète. En plus, le merle, c'est à la fois les stations INRA et un centre de formation professionnelle. Donc, il y a des bons échanges de ce côté-là. Et ils respectent la tradition pastorale, tout en faisant de la recherche agronomique. Enfin, ça fonctionne de façon assez sympathique avec des niveaux de formation et des types de formation différentes qui sont en contact. Donc, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est intéressant. Pour des bergers. Tu sors du merle, tu sais batter un âne, il y a des tas de choses précises que tu sais faire. Voilà. Tu vas aller en montagne et tu vas être piloté la première année que tu montes en montagne. Tes formateurs vont venir te visiter, voir où t'en es, etc. Il y a un suivi. Il y en a dans les Pyrénées aussi et il y en a en Savoie. Après, ce qu'il y a dans les Pyrénées, il y a des formations, je pense que Pamiers, Oloron, Foix, par là, Mirepoix, ouais, Mirepoix aussi, il y a un centre. Ils travaillent ensemble là-bas. Uh-huh. Je pense que c'est pas mal. Après, il y a un centre en Savoie et à la limite du Jura aussi, uh-huh. Où c'est plus spécifique pour l'alpage, c'est des formations plus courtes. Ben sinon, l'autre solution, c'est d'aller rencontrer les bergers par un biais ou par un autre. Et puis, à force de visiter ou n'importe quoi, de se mettre en situation. Voilà, moi, j'ai été mis en situation et j'y suis allé. Ouais, c'est comme ça, c'est par contact ou par mise en situation. Mais si tu te mets en situation pour aller en montagne, faut être prêt, quoi. À être dans des conditions inconfortables, à être dans des conditions difficiles de responsabilité de travail, de frustration, parce que quand il manque quelque chose, bah, tu ne vas pas le chercher au magasin, il n'est pas là, le magasin, donc tu attends. Tu vois, c'est une expérience difficile. C'est faisable. Quelqu'un de tenace, un mec tenace, ça passe. Tu lâches jamais le morceau, même si tu ne connais rien. Tu quittes pas les bêtes. Il y a des clés. La première, tu lâches pas le morceau au troupeau. Tu dis pas, celle-là, je la rentrerai demain ou si elle a l'agneau. Tu la... Maintenant qu'il y a le loup, quand il y a une momie qui a l'agneau, tu la remets. Et pour toi-même, tu conserves des temps de repos. Tu t'obliges à te reposer. Et tu t'obliges à faire la cuisine et tu t'obliges à faire le ménage. Parce que quand il fait beau, vivre dans la merde, tout le monde y arrive. Quand il fait mauvais, c'est très difficile. Tu vois, quand t'as la boue qui arrive jusqu'au lit, quand t'as le chien parce que tu l'as pas sorti, parce que t'as trop picolé, caché devant la porte. Quand t'as... Tu vois, les bergers, c'est aussi ça, quoi. Il faut faire super gaffe à avoir de la discipline.
Ah, d'accord.
Ça, c'est vraiment le truc.
Donc, j'allais y venir. Est-ce que tu conseilles sur ce métier? Et puis, si tu le conseilles, mais t'es en train d'en parler, tu mets en garde sur quoi? Bon, mais déjà, sur l'autodiscipline.
Ouais. Et oui, t'es tout seul, hein.
Ouais. Oui, c'est ça. Et puis tu peux compter sur personne, ou alors ça va prendre du temps avant que les secours arrivent, si jamais t'as un souci.
Ouais, et puis il y a...
Si t'es malade,
y a ça, ça. Puis il y a les... Ouais. Ouais, de pas... Faut essayer de garder les pieds sur terre. Ce qui n'est pas évident quand t'es tout seul. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais pas gaffe, tu sais plus quel jour t'es. Bon, maintenant, il y a des portables et tout ça. Mais au bout d'un moment, tu passes devant la fenêtre, tu vois une tête dégueulasse, c'est toi. Tu t'es pas lavé depuis 15 jours, tu t'es pas rasé depuis 15 jours, tu fais la cuisine au feu de bois, tu vois un monstre dans le... Moi, ça m'est arrivé, tu vois un monstre... Merde!
Oh, c'est qui?
Putain,
c'est... Mais c'était toi.
Et ouais. Il faut vraiment... Il faut se tenir, quoi.
Mais bon, quelqu'un qui, dont tu sens qu'il a envie de du conseil d'aller dans ce métier.
Bien sûr, bien sûr.
On s'y épanouit.
Hein ?
On s'y épanouit.
Ah, bien sûr, bien sûr. Puis ça, ça donne... D'abord, bon, après, il faut aimer ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Tu arrives en alpage dans le Queyras au, ouais. au début juillet, tu vois, des, tu vois 300 hectares de fleurs, quoi. Bon, ouais, si t'aimes les fleurs, il y en a.
Ah, ben là,
Il y a des oiseaux, il y a voir pâturer son troupeau, le surveiller, il y a le travail des chiens qui est passionnant, parce que là, t'as toute la journée pour le faire. C'est super intéressant. Hein. C'est, un alpage, c'est comme de mener un bateau. Donc, c'est les mêmes contraintes de discipline D'accord. et de liberté. T'as les deux trucs qui sont... Si tu veux l'un, il faut que t'aies l'autre. Sinon, ça ne va pas le faire.
C'est une liberté.
Ouais, ouais. Voilà. Et c'est très... Enfin, moi, j'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Ouais. Tu vois, j'ai 68 ans. Ouais. Je vais remonter cette année.
Et, mais tu disais quand même, c'est un métier où on ne gagne pas énormément d'argent. Et surtout, c'est la précarité. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on ne sait pas si on va rebosser. Quoi.
Oui, mais c'est aussi pour ça que les mecs font ça, si tu veux. Quand ouais. on parlait du goût de la liberté, c'est que tu as des mecs, un CDI, nanana, supporter le chef toute l'année, bim, bim, bam, tralala. Il y a plein de gens pour qui ça ne le fait pas. Ouais. Bon. Donc, après, il faut savoir que ça peut être dans la précarité.
Ouais. C'est bon, ça fait visiblement longtemps que tu es dans l'agriculture, enfin plus dans le pastoralisme d'ailleurs. Est-ce que tu as une idée de la tournure que pourrait prendre l'agriculture ou le pastoralisme dans les années à venir ? Dans les 10 ans, dans les 20 ans parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de l'agriculture.
Tu as toujours un peu deux pôles extrêmes, mais qui ne représentent pas du tout la même masse de production.
Ouais.
Je vais démarrer par un truc idiot.
Ouais.
Dans les années 60, il y avait un exode rural énorme. Et il y a eu un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Pisani et qui a mis en règlement, installé les bases de l'agriculture, en tout cas dans l'Hexagone. C'est-à-dire l'exploitation familiale prioritaire sur le reste. C'était en partie pour enrayer
l'exode rural.
À l'époque, on disait en géographie humaine que le phénomène de mégapole était un signe de sous-développement. Ce serait intéressant qu'on se remette dans cette perspective.
C'est mais comme on a changé.
C'est assez rigolo, hein. Ouais. Bon, mais c'était moi j'ai appris ça en géo. Ouais. Bon, et donc c'était des exploitations à taille humaine, en tout cas familiales, mmh. avec des exceptions. Hein, par exemple, l'Istel, c'est une famille. Mmh. Enfin, les vignes commencent à Arles et puis elles finissent à Agde.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
Donc il y a eu quelques passe-droits. Mais on a essayé d'empêcher le latifondisme, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire la structure, comme en Espagne ou en Amérique du Sud, où il y a une grosse affaire qui a des milliers d'hectares, etc. On a essayé d'empêcher ce truc-là pour pas que ça se désertifie dans les territoires. Cette question, elle est encore d'actualité.
Mmh.
C'est-à-dire que... Il faut peut-être faire attention à pas partir dans la direction de l'agriculture trop industrielle. Et en tout cas, du dumping, faut que la production agricole, enfin moi, hein, je vois ça comme ça, et que l'élevage reste des unités qui correspondent à de la vie et à de l'échange de vie, et pas qu'à des chiffres. Et des masses produites et distribuées de façon de plus en plus compliquée. Voilà, donc raccourcir les circuits. Je ne suis pas contre les circuits longs, il en faut. Mais bon, moi j'ai été pendant 7 ans président d'une association de producteurs fermiers. Donc nous, qu'est-ce qu'on garantissait ? On n'était pas en bio particulièrement, on pouvait l'être. Ce qu'on garantissait, c'est qu'il s'agissait d'une structure à taille humaine. Ou pour, par exemple... Un patron, bah, il n'y avait pas plus de 2 salariés. Qu'on était sûr de garder une taille humaine d'exploitation. Quoi. Que ça correspondait à une façon de vivre, à une façon d'aménager un territoire aussi. Mmh. C'est, moi, je viens de la Brie. Hein.
Ah oui, oui, c'est les open field.
Tiens, tout, un là-bas. Arbre
Mais l'agriculture du futur, en fait, des années futures, tu les...
Tu vas avoir les deux. Tu vas avoir de l'agriculture hyper industrielle parce qu'on ne pourra pas l'empêcher. Parce que déjà, même maintenant, quand c'est verrouillé, puis tu vas avoir de l'agriculture alternative comme dans les années 70, parce que des plans comme le Covid, ça recadre les gens. Il y a des tas de gens qui se posent des tas de questions, qui veulent retrouver des tailles humaines de fonctionnement. Mais ça, mais en masse produite, c'est que dalle. Ouais. Donc tu vas avoir des gens qui vont rechercher de la plus-value et du circuit court, et puis tu vas avoir ben, l'inverse, c'est-à-dire les usines à cochons ou les usines à vaches, les 32 000 vaches que tu peux trouver dans certains endroits des États-Unis, ça va être difficile à arrêter. Les Chinois, ils vont foncer là-dessus. Ça va continuer. Après, le problème, ce sera quand il y aura trop de problèmes de type de contagion entre le...
Donc les grippes aviaires, etc.
Et puis là, je pense quand même que, qu'à mesure que le monde devient de plus nombreux et qu'on maîtrise la nature, on va quand même consommer moins de viande. Je pense que ça, c'est une tendance qui va s'installer. Parce qu'en fait, si tu regardes bien les endroits, le chasseur-cueilleur, il devient l'éleveur. Il suit sa bouffe. Ouais. Dans des endroits où il n'y a rien à bouffer. Parce que tu sais, les gens qui critiquent la nourriture carnée, ils ont peut-être raison. Mais en Mongolie, si tu ne manges pas de viande, tu ne vis pas. Dans les pays du Sahel, dans le désert et tout ça, si tu n'as pas des animaux qui te garantissent une réserve tant qu'ils sont vivants, une réserve pour bouffer, tu ne traverses pas le désert. Hein. Ouais. Tu vas pas emmener tes salades. Hein. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais. Donc, à mesure qu'on maîtrise et qu'on occupe plus le sol, je pense qu'on aura moins besoin de la bidoche et puis que ça va être sortir de la culture, surtout.
D'accord. Si, moi, j'avais une question, là, parce que tu en as parlé vite fait. Avec le Covid, il y a eu un effet sur les citadins, notamment.
Oui.
L'espèce de retour à la campagne, comme on entend dire.
Ouais.
D'autres qui songent carrément à s'installer agriculteur, à être maraîcher, céréalier. Ouais.
Le maraîchage est vachement à la mode. Oui. Là, tous les milieux alternatifs, c'est maraîcher.
Alors que c'est vachement dur, le maraîchage.
Ah, oui.
Physiquement, et puis il faut les meilleures terres et tout.
Ouais, mais même si elles sont pas bonnes, tu peux les améliorer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas buller à la maison. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, surtout il y a des périodes. Si tu peux le faire en décembre, janvier à la rigueur, mais pas le reste de l'année, quoi.
Je te dis, les maraîchers, les chèvriers, c'est les familles qui explosent le plus dans l'agriculture.
D'accord.
Donc ça, je pense que ça doit être quand même une info, quoi.
Il faut le garder en tête.
Ça bosse.
Ouais,
trop,
et
ça
donc
bosse.
Ça va être un phénomène de demande, en fait.
Oui.
Voilà.
Mais bon, c'est les modes qui font bouger les choses, hélas.
Il faut des fois en passer par là.
Non, mais c'est affreux, bien sûr. C'est moi ce qui m'inquiète, alors. Beaucoup plus, beaucoup. Et ça, c'est l'urbanisation, puis c'est aussi le fait que les sociétés se laïcisent, c'est-à-dire que le système de référence culturelle n'est plus lié à une religion, ou moins directement qu'avant, en tout cas, parce que les familles ont beaucoup éclaté, parce que, etc. Du coup, la notion de famille ou la notion de groupe ou la notion de fratrie ou tous ces trucs-là, elle a beaucoup explosé. Et en Occident, si tu veux, les gens se gèrent comme des individus, mais seuls, de A à Z. Parce que le reste, c'est une privation de liberté. Oui, seulement, il ne faut pas oublier qu'au bout de la liberté, si tu ne fais pas attention, il y a la solitude. Et là, en ville, on en est là. Et... ça pose un problème que tu vas sur Internet, que des gens qui s'insultent. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de gentillesse, il y a pas de... c'est ma gueule, quoi. Et c'est pas étonnant que ces gens s'identifient au loup. Parce que je reprends les propos d'un éleveur chez qui je voudrais bien t'envoyer, qui disait, il y a 50 ans, la référence, c'était la ruche. Ou la fourmilière. Où tout le monde travaille pour tout le monde, etc. Maintenant, c'est le loup.
C'est le loup. C'est pas la même mentalité. Quoique ça vient de me tomber un loup, quand même.
Mais oui, et ça, c'est un truc que les gens ne perçoivent pas. Quand on parle du loup, si tu veux, pour où c'est un loup.
Un loup solitaire.
Ouais, c'est un loup solitaire. Bah, oui.
Le Mercantour et tout, il y en a beaucoup.
Non, mais le Mercantour, il y en a beaucoup.
Ouais, il y en a ici, maintenant, du côté de Nantes. Si ça
mais il y en a partout. Ouais. Et puis, on oublie que les premiers sont arrivés en Alsace aussi, ça, on a oublié.
Mais ils sont très discrets, hein, parce que on les voit peu. Quoi.
Ouais, ils sont discrets. Mais il y a des endroits où ils sont de moins en moins discrets. Ah ouais. Oui, moi, des endroits où je garde, où ils traversent le village. Et puis moi, j'ai... Quoi, oui.
Ah oui, non, mais je te crois. Voilà. Je me fais l'image dans ma tête.
C'est pas Camarès qui travaille, mais
qui traverse. Un petit village, quoi.
Il y a eu un gros mensonge sur cette histoire de loup depuis le début, par les pouvoirs publics, partout. Moi, j'ai des témoignages de lâchés en Savoie où il y a, on entend des trucs, enfin tout ça, puis il y a une dame qui va à la gendarmerie dire qu'elle a vu un loup. Et on lui dit, mais non, madame, vous avez vu un renard. Et la bonne femme, elle, tu sais, c'est une paysanne, et j'ai envie de dire au mec, attends.
Je sais de quoi je parle.
Peut-être que je confonds pas encore un renard avec un loup. Un renard, ça fait 7 kilos et demi, ouais.
Ça, bon, mais super. Merci David. Merci d'avoir consacré ce temps-là.
Mais non, mais merci à vous, on a passé un bon moment.
Ben oui, on a passé un bon moment. Merci.
Merci à David pour le partage de son érudition, le café et la tarte au citron. Ce programme est disponible en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.